Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et internautes de Radio Okapi. Nous sommes ravis de vous retrouver toujours aussi nombreux pour votre émission préférée, Bana Okapi. Un espace d'expression unique, fruit de notre partenariat avec l'UNICEF qui donne la parole aux jeunes, aux plus jeunes et aux parents à travers la RDC. Du lundi au vendredi des 15h30 à 17h, nous plongeons ensemble au cœur de réalité et des aspirations de la nouvelle génération. Aujourd'hui, notre émission s'adresse particulièrement à vous, jeunes auditeurs. Vous arrive-t-il de vous sentir dépassé, de ne plus savoir comment jongler entre les études et les moments de détente? Trouver les justes équilibres pour s'amuser sans pour autant négliger vos études vous semble-t-il parfois une mission impossible? Sachez que la gestion du temps n'est pas toujours une chose aisée. Pourtant, maîtriser son temps commence par une étape essentielle, identifier clairement ses priorités. Ensuite vient la connaissance précise de vos objectifs. Ce n'est qu'après avoir défini ce point fondamental que l'organisation de votre temps peut véritablement commencer à porter ses fruits. Alors, si vous souhaitez démystifier le secret d'une gestion de temps efficace et découvrir des astuces pour mieux organiser votre quotidien, restez bien à l'écoute. Bana Okapi vous livre toutes les clés pour un équilibre réussi entre études et loisirs. Sarah Soumbela, c'est moi, à la présentation de cette émission qui se déroulera jusqu'à 17h heure de Kinshasa. Paul Badianama est à la prise de son. Dobsovita assure la mise au nom de Christian Mapenda Noyakris, coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc. Matwakimo Felele, Dijana. Le bal, Bana Okapi est allé à la rencontre des élèves du primaire du complexe scolaire Source de Bénédiction situé ici même à Kinshasa dans la commune de Ngiringiri. Comment ces jeunes écoliers parviennent-ils à jongler avec leurs différentes activités, les études bien sûr, mais aussi le moment des détentes? Pour eux, c'est un quotidien souvent bien rempli où les tâches ménagères, les loisirs et les apprentissages s'entremêlent. Écoutez Léo au micro de Greta Lulendo.
Bonjour les amis.
Bonjour.
Donc ma première question est de savoir comment tu organises ton temps entre les études et les loisirs.
Parfois quand je rentre à la maison, d'abord je me déshabille et puis je me repose, je regarde la télé, s'il n'y a pas le courant, je prends les habits, je lave ça et puis quand j'ai terminé, je n'ai pas poussé de l'eau. Je regarde la télé, si le courant est parti, je pars laver les assiettes. Après, je fais mes devoirs, je me déshabille. Après, je me repose. Si je rentre à la maison, j'enlève mes habits, je bois du thé, je me repose un peu, je regarde la télé, je lave mes habits. À 16h, je fais les devoirs.
Quand je rentre à la maison, je me déshabille, je bois du thé, je fais mes devoirs. S'il y a du courant, je regarde la télé. Si le courant est parti, je joue le ballon. Si je suis fatiguée, je me repose.
Quand moi j'entre à la maison, je bois du thé, je me repose. Quand je me repose, et je lave les habits, et je lis, je fais mon devoir et je joue les catégories.
Quand je rentre à la maison, je me déshabille, je bois du thé, je fais mes devoirs. Et puis si je regarde la télé, si le courant n'y en a pas, je pars jouer les ballons.
Quand je rentre à la maison, je fais les devoirs. S'il n'y a pas le courant, je pars jouer les ballons. Après, je me repose.
Moi, si je suis rentrée à la maison, je me repose d'abord, je bois du thé, je lave mes uniformes. Et s'il y a du courant, je regarde la télé. S'il n'y a pas du courant, je me détends avec mes petites sœurs.
Si je rentre à la maison, j'arrive, je me déshabille. S'il y a du courant, je regarde la télé. Après, je pars, je lave mes uniformes, je lave mes quêtes, je lave les assiettes, j'arrange la maison. S'il y a du courant là-bas, je pars puiser de l'eau. 16h, je fais mes devoirs et puis je mange. Et puis je dors.
Après l'école, je rentre à la maison. J'enlève les uniformes, je me repose un peu, je mange. Après, je joue avec mes petites sœurs. S'il n'y a pas de courant, je me repose un peu.
Alors les amis, pour la deuxième question, peux-tu nous donner un exemple d'une journée type où tu as organisé ton temps, comment tu l'as fait?
Moi, à la journée d'hier, je me sentais très fatiguée. Comme il y avait un peu de pluie, je brisais de l'eau à la pluie. Quand la pluie est terminée, j'ai changé les habits, je suis dormie.
Moi, hier, j'avais s'amusé avec mes amis, on causait. Après, Mersen, Sermedine, Erika, Allegra, et la deuxième Erika, c'est fini. On parle de nos choses de l'école. Après, on est allé briser de l'eau.
Hier, je lis mes cahiers et puis je joue avec mes amis.
Hier, comme j'étais rentrée de l'école, je me déshabille, je fais mes devoirs, je bois du thé et puis je me repose.
Moi, hier, quand j'étais à la maison, quand je viens de l'école, je me déshabille, je change les habits, je porte les autres habits, je fais mes devoirs, je joue avec mes petites sœurs, donc je les dis magnifique, fantastique, le roi des papillons a perdu son amour. Si tu bouges, en tépique, magnifique, fique et fantastique, si le roi des papillons a perdu son amour, si tu bouges, en tépique. Là, on était avec mes amis. Mes amis, une autre s'appelle Mervedi, une autre son nom c'est Christanvi, une autre c'est Genovie, une autre c'est Jorvin, une autre c'est Winner. Hier, c'était une bonne journée pour nous, on jouait bien, on était bien aussi, vraiment, nous et mes amis.
La journée d'hier, j'étais un peu fatiguée, je me suis reposée, j'ai préparé du thé, j'ai bu, j'ai revisé les leçons que nous avons étudiées. Après ça, j'ai lavé mes uniformes, lavé mes caches, je suis partie puiser de l'eau. Après, je suis venue jouer au ballon. Après 16 heures, on a préparé du riz, les haricots et les poulets, j'ai mangé. Après, le soir, je dors.
Y a-t-il de moments où tu te sens débordée, tu as beaucoup de choses à faire?
Oui, un jour ça m'avait arrivé, j'étais très débordée, j'avais trop de choses à faire. J'avais balayé la maison, j'ai lavé mes assiettes, j'ai lavé les uniformes, j'étais très fatiguée. Je me suis reposée, quand je me suis réveillée, j'ai continué à faire des autres travaux.
Qu'en est-il alors des adolescents du secondaire? Suivez-les également au micro de Greta Lolendor.
Comment tu organises ton temps entre tes études et tes loisirs?
Le matin, je pars à l'école et puis quand je rentre dehors, je fais rien d'important, je fais la sieste et puis je lave les uniformes et puis le soir, je lave les assiettes.
Tu n'as pas le temps de loisir de regarder la télé ou de chatter?
Je regarde la télé à partir vers de 17h jusqu'à 20h.
Cela dépend du programme scolaire. Si demain nous n'avons pas vraiment du temps, je peux accorder quelques moments de révision et puis passer aussi à mon temps, utiliser mon téléphone, mais ça dépend de l'horaire. Si je sais qu'on a demain une heure d'interrogation, alors je vais me concentrer sur les études. Mais si je sais que demain on a un peu l'horaire libre, là je pourrais profiter d'abord en faisant d'autres choses.
Alors j'ai d'abord planifié un horaire. Je quitte l'école à 12h50, j'arrive vers 14h. Je me repose 30 minutes et j'ai 2 heures pour réviser, le reste je peux m'occuper de moi quoi. Bon, là je suis encadré au groupe Christ de la Noiride, donc je descends souvent à la paroisse. Et puis bon, s'il n'y a rien à faire, je prends l'ordinateur, je peux jouer à des jeux vidéo. Et si j'ai encore du temps libre, je peux encore réviser.
Alors, peux-tu nous donner un exemple concret de ton emploi du temps ou de ta façon de planifier ta semaine?
Je n'organise pas précisément mes journées. C'est vraiment comme ça.
J'improvise. Oui, ça dépend de l'humeur du moment. J'ai pas vraiment de programme spécial.
Oui, je le fais en avance. Déjà, chaque fin de semaine, donc chaque dimanche en fait, après la messe, je vérifie toujours en fait pour voir si je peux modifier un peu. Alors, le lundi, ce que je fais après les cours dès que j'arrive à la maison, j'arrive à 14h, je me repose jusqu'à 15h. Et de 15h30 à 17h30 maximum, je peux commencer à avoir mes notes. Et c'est comme ça tous les jours en fait, c'est la même chose.
Peux-tu nous décrire une journée typique pour toi?
Samedi, parce que dimanche, c'est l'église, donc j'ai tout le temps pour profiter de faire tout ce que je peux faire, parce que demain, il n'y a pas cours. Donc samedi, c'est vraiment le jour où je peux faire tout ce qui me semble et ne pas vraiment penser à l'école. C'est un peu comme si c'était des vacances.
Le samedi, je touche pas mes cahiers, vu que samedi, carrément, je me repose. Et le dimanche, je peux étudier une heure maximum une heure le dimanche.
Y a-t-il de moments où tu te sens vraiment débordé?
Oui, des moments où il y a souvent du travail à la maison, où tu n'as pas, quand tu reviens de l'école, tu n'as pas le temps pour te reposer. Directement, tu te mets au ménage. Là, c'est un peu débordant.
Tu fais comment quand tu es vraiment busy, tu as trop à faire? Tu fais comment?
Je partage un peu les tâches. Souvent, je peux faire la vaisselle. En même temps, je fais la vaisselle, en même temps, je prépare.
Oui, pendant les examens et les périodes de révision. Car il faut vraiment réviser les périodes et les cours d'avant et qu'on va poser. Donc, c'est vraiment un moment où c'est un peu surchargé et on est un peu débordé dans ce moment-là, mais je me concentre et je mets mes distractions de côté et je passe vraiment mon temps à réviser, à préparer les examens.
Alors, lorsque ça m'arrive, je m'occupe des cours d'options, comme ce sont littéraires, et quand je suis débordé et que je sais que demain, on aura peut-être une interrogation de latin et géographie, je m'occupe d'abord de latin, vu que c'est le latin qui va me faire passer de classe. Je m'occupe d'abord de latin. Et donc, pour faire cours, lorsque je suis trop débordé, je m'occupe d'abord des priorités. Voilà.
Les amis, gérer le temps des enfants entre études et loisirs est un défi pour le parent de Kinshasa. Certains prônent la planification stricte contre le stress scolaire, tandis que d'autres insistent sur l'orientation des loisirs. Des parents s'expriment au micro de Sulamit Kipuningoma.
Bonjour messieurs.
Bonjour madame.
Pouvez-vous nous dire comment faites-vous pour aider vos enfants à organiser leur temps à la maison?
En fait, ils ont quelques temps pour se reposer. Ils se reposent d'abord, après les repos, ils déjeunent, après le déjeuner. Des fois, ils regardent la télé ou soit je leur distribue des livres. Ils ont des livres.
On leur demande d'abord de se reposer, de manger, de revoir leurs devoirs. Et quand ils ont fini, on donne seulement un petit temps pour se distraire parce que, bon, c'est quand même la période des cours. Il ne faut pas qu'ils entrent trop dans la distraction au risque de s'écarter de leurs objectifs. Quoi.
Ceux qui vont le matin à l'école, quand ils reviennent de l'école, d'abord, ils doivent manger, ils doivent se reposer. Les plus grandes font leurs devoirs les après-midi.
On a mis en place, en fait, quelques routines. Par exemple, c'est l'utilisation, des ordinateurs et de la télévision.
À la maison, généralement, c'est comme nos anciens parents. Le matin, vous quittez, vous partez au travail, les enfants partent à l'école. Ils rentreront que selon le circuit des cours. Vers 19h, c'est le moment idéal d'être avec eux, de leur demander qu'est-ce qui s'est passé la journée, surtout pour les études.
Comment encouragez-vous l'équilibre entre les études et les moments de détente en famille?
La détente, c'est très important pour la vie d'un enfant parce que il faut des fois que lorsqu'il fait, après, lorsqu'il se détend, elle essaie d'oublier certaines choses aussi. Et après là, la tête est encore, c'est comme si c'est une remise à zéro. Et souvent, pendant les vacances, on a les moments où on les amène à des endroits pour se détendre.
Tout ce qu'on fait, on leur demande d'abord de se reposer, de se détendre. Mais cette détente, on préfère qu'il soit orienté avec des programmes qui instruisent, mais sans demander beaucoup de concentration.
Pendant la semaine, ils ont le temps pour regarder la télé. Ils peuvent regarder la télé, ils peuvent jouer au téléphone. Les devoirs, ils ont le temps.
À la maison, on essaie de mettre en place une norme qui fait que quand ils ont fini de manger, ils doivent se reposer un peu, dormir, réveil, ils peuvent utiliser soit l'ordinateur ou la télé.
Notre détente, c'est quand on finit les tâches ménagères à la maison. Là, on est en famille. C'est le week-end, hein. Ce n'est pas le jour que aujourd'hui et demain, ils vont aller à l'école, non.
Il faut que chaque week-end, que les enfants puissent se distraire. Mais dans la semaine, ils doivent se consacrer aux études.
Et comment faites-vous pour gérer les moments où votre enfant a du mal à se concentrer sur ses devoirs ou est trop absorbé par ses loisirs? Comment vous faites lorsque l'enfant refuse de faire ses devoirs, lui ne veut que jouer? Comment vous faites pour gérer ce genre de moments?
Je les chicote d'abord. Après les chicote, je tire les oreilles. Et puis, je les ramène. Bon, d'une part, c'est aussi chose qui n'est pas du tout facile parce que l'enfant ne peut pas étudier étant forcé. Il faut qu'il le fasse de sa propre bonne volonté. Mais des fois, on le fait parce que et si on laisse tout le temps, toute la liberté à l'enfant, malheureusement, il se comporte comme un responsable de sa propre vie. Alors qu'à un certain niveau, les enfants croient qu'ils étudient pour les parents. Alors, il faut les faire voir que les études qu'ils sont en train de faire, c'est pour leur futur.
On discute d'abord avec l'enfant, le faire comprendre le bien fondée des études et parfois les méfaits des programmes là trop distractifs.
D'abord, je les explique d'abord que les études c'est pour maintenant, c'est pour nous, mais demain ça sera pour eux. Donc celui qui étudie aura son pain, il sera d'abord utile à la société et demain il aura son pain sans demander à qui que ce soit.
Et bien sûr, on est là pour les orienter et on essaie d'allier un peu de largesse mais aussi de fermeté.
Bon, ce que je fais souvent, j'éteins d'abord la télévision, j'enlève les jeux vidéo, même si elle sera fâchée. Mais après, elle va adopter ce que moi je veux.
Les conseils sont les bienvenus.
Comment apprenez-vous à vos enfants à prendre la responsabilité de leur propre organisation au fur et à mesure qu'ils grandissent?
J'organise, je donne à chaque enfant un horaire. Ils ont les horaires des programmes, c'est-à-dire les programmes. L'enfant sait que le matin, chaque jour, il sait que du lundi au vendredi, il y a un programme. Et le week-end, ils ont un autre programme.
Bon, déjà la première des choses, nous observons comment ils se comportent face à une situation ou bien une autre. Et on voit là où ça va bien, on les aide à améliorer. Et là où ça ne va pas, on les aide maintenant à arranger.
J'essaie un peu de donner la responsabilité de chacun.
Tout commence par l'organisation des choses, l'ordre dans leur chambre.
Je les apprends à ranger le vêtement, balayer la chambre, ranger le lit.
Là, c'est une gestion familiale. Et comme la maman aussi est à la maison, je pense que c'est mes secondes aussi pour les filles, pour leur apprendre aussi comment ils peuvent gérer leur temps. Les garçons, je peux toujours insister sur la bonne éducation.
Comment gérez-vous les distractions comme la télévision, les jeux vidéo ou encore les téléphones avec vos enfants?
Les téléphones, ils n'ont pas droit pendant les périodes de cours, de classe. Ils ont seulement droit au téléphone pendant les vacances. Pour la télé, ils ont droit à la télé le week-end seulement.
Bon, déjà, ce que moi je fais, pendant la période de cours, j'ai ravi le téléphone à ma fille. Sauf, bon, comme actuellement, ils ont aussi des devoirs sur Internet, mais en tout cas, je veille sur ça.
Étant absente à la maison, je ne sais pas bien gérer.
On ne peut pas aujourd'hui les empêcher de se distraire avec les jeux vidéo ou avec la télévision. On essaie de mettre des contrôles parentaux sur certaines chaînes.
C'est vraiment un peu difficile, mais si je suis à la maison, je contrôle tout. Mais si je ne suis pas à la maison, c'est vraiment compliqué.
Clôturant cette première manche.
Tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'environnement.
Moi, j'aime qu'on me parle de la santé ou de l'éducation.
Et les questions de l'entrepreneuriat me préoccupent beaucoup.
Et surtout, tout ce qui touche à la protection de l'enfant m'intéresse beaucoup.
Justement, pour parler de tout ça, l'UNICEF et Radio Okapi ont préparé ces programmes. Le magazine Bana Okapi, pour vous, avec de la musique aussi.
Merci de nous rejoindre sur la fréquence de la paix pour la suite de votre magazine Bana Okapi, l'émission qui donne la parole aux enfants, aux jeunes et à leurs parents avec le soutien de l'UNICEF. Sarah Sumbela, c'est moi, je suis à la présentation de cette émission qui se déroulera jusqu'à 17h, heure de Kinshasa. Paul Badianama est à la prise de son, Debsovita assure la mise en onde, Christian Mapendanoyakris coordonne ce programme sous la supervision de Jean-Marc Motokimofelele Dijanou. Chers étudiants, élèves et jeunes, nous parlons d'un sujet qui revêt d'une importance capitale pour votre réussite, la gestion du temps. Imaginez être capable de structurer vos heures d'études tout en vous accordant des moments de détente bien mérités. Adieu les angoisses, le stress et les sentiments d'être constamment dépassés. Grâce aux éclairages de nos experts, vous découvrirez comment prendre le contrôle de votre emploi du temps, atteindre vos objectifs avec sérénité et surtout profiter pleinement de chaque instant de votre vie. Alors, restez bien à l'écoute. Pour approfondir approfondir notre réflexion sur la gestion du temps chez les jeunes, Bano Capi a le plaisir d'accueillir les directeurs du complexe scolaire Notre-Dame de la Grâce, Notre-Dame de Grâce de Bounia. Ils parlent de l'importance de la planification du temps pour les élèves, mais également de conséquences préoccupantes du manque de concentration au milieu scolaire. Romain Mungonuti soulignera la nécessité d'accorder du temps de repos suffisant aux enfants après les activités scolaires. Il s'entretient avec Ezekiel Mouzalia.
Monsieur Romain Mungonuti, bonjour.
Bonjour Monsieur Ezekiel.
Depuis que vous enseignez, certainement vous avez déjà eu à avoir des bons et des mauvais élèves, je pense.
Certainement, monsieur le journaliste.
Comment les bons élèves organisent-ils leur temps en classe et même à la maison, hein, si vous avez assez d'informations par rapport à ça?
En fait, généralement, les bons élèves organisent leur temps de manière stratégique, monsieur le journaliste. Tout d'abord, en planifiant leurs activités d'une façon hebdomadaire, mais aussi journalière. Cela signifie que le bon élève utilise souvent un agenda très bien planifié. Et dans cet agenda, on peut avoir le devoir, on peut avoir le projet, on peut avoir les révisions, mais aussi les temps libres à passer à la maison.
Alors, par exemple, en classe, comment ils organisent justement leur temps? Il y a des fois peut-être que vous leur donnez un exercice, un travail à faire. Et voilà, c'est sous votre surveillance. Comment vous remarquez qu'un élève a bien planifié son programme de la journée?
Bon, cela se remarque le plus souvent à travers les travaux que les élèves font. Ça se remarque dans leur concentration, dans ce qu'on leur a demandé de faire. Alors, vous allez voir qu'un élève qui a une très bonne planification prend du temps. Il se concentre, il a la confiance en lui-même. Il fait très bien ce que l'enseignant lui a demandé de faire. Et à la fin, vous verrez que ça donne un bon rendement.
Et par rapport à ceux-là qui n'organisent pas bien leur temps?
Ceux-là qui n'organisent pas très bien leur temps, ils sont le plus souvent distraits. Ils n'arrivent pas à se retrouver correctement. Donc, il n'y a pas ce goût de travail bien fait. Ils ne travaillent pas d'une manière efficace comme le vise l'objectif de notre école.
Mais cela peut avoir quelles conséquences?
Les conséquences sont nombreuses, mais l'une des conséquences qui résume le tout, c'est l'échec. Quand l'enfant n'arrive pas à travailler comme il se doit, finalement, il va échouer.
Quel conseil vous donnez aux élèves qui ont du mal à faire leurs devoirs à temps?
Monsieur le journaliste, les conseils que je peux donner à ces élèves qui ont du mal à faire leurs devoirs sont nombreux. Je vais commencer par leur demander de créer un environnement propice pour faire ce devoir. C'est-à-dire, ils doivent choisir un endroit qui est calme, un endroit qui n'a pas trop de distractions. Mais également, quand ils travaillent à la maison, ils doivent se rendre compte qu'ils travaillent dans une situation de classe. Donc, ils doivent avoir un bureau, ils doivent avoir
un tableau,
les manuels à côté, etc.
Parce qu'on voit tout, on voit souvent, il y a des élèves qui viennent faire les devoirs à la minute près avant d'entrer en classe, ou bien viennent copier sur les devoirs des autres. Cela peut avoir justement quel impact sur la scolarité des enfants?
Le plus souvent, ce sont des enfants qui n'ont pas un agenda bien structuré à la maison. Ils ne savent pas que faire à quitter l'école, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas une planification, ils quittent l'école, ils retournent à la maison, ils se concentrent tout le temps devant la télé, devant le jeu. Ils n'ont pas le temps de se concentrer à faire le devoir. Et c'est le lendemain qu'ils vont se précipiter avant le coup des sifflets, à 7h20 ou 7h15, pour se mettre à travailler leur devoir pendant 5 minutes. Alors que le devoir nécessitait 1 heure, 2 heures de concentration. Alors, je leur demande d'avoir une planification.
Mais est-ce que vous pensez que prendre des pauses, prendre un petit moment pendant qu'on fait les devoirs, c'est une bonne idée?
Bien sûr, monsieur le journaliste, prendre des pauses pendant les devoirs est une très bonne idée. Voici le pourquoi. Vous savez, le cerveau a besoin de repos pour rester efficace. Quand tu travailles trop longtemps, sans pause, ta concentration diminue. Et puis, tu fais plus d'erreurs et tu mémorises moins bien. Donc, une pause permet de recharger l'attention. Et faire des pauses pendant le devoir permet également de mieux mémoriser ce qu'on est en train de faire. Pendant une pause, le cerveau consolide ce que tu viens d'apprendre. Et c'est un peu comme si ton esprit faisait les tri dans ce que tu viens d'étudier.
À l'opposé, si par exemple on travaille, un enfant travaille sans pause, que ce soit à la maison ou bien à l'école, cela peut avoir aussi quel impact sur sa façon de penser ou bien son psychisme.
Un travail sans pause amène le plus souvent à un mauvais résultat. Je le disais dans les lignes précédentes que le corps a besoin de pause, le cerveau a besoin de la pause. Si on travaille sans faire de pause, les résultats ne seront pas bons. Et les enfants qui ne font pas de pause le plus souvent pendant qu'ils font leur devoir n'ont pas de bons résultats.
Puisqu'on aborde cet aspect, monsieur le directeur Romain, comment maintenant aider les élèves à ne pas mélanger le temps des études et le temps des loisirs à la maison? Commençons d'abord par la maison et puis on va revenir par l'école.
Merci beaucoup pour cette question très importante. Donc pour aider les élèves à ne pas mélanger le temps des études et le temps des loisirs à la maison, personnellement je pense qu'il faut créer des repères clairs dans le temps, dans l'espace, mais également dans les habitudes. C'est-à-dire il faut fixer un emploi du temps, un emploi du temps qui est clair.
Là, on est à la maison.
On est à la maison, il faut fixer un emploi du temps qui est clair.
Savoir l'enfant peut faire ceci, cela.
Il doit définir les heures précises pour les devoirs chaque jour, par exemple des 17h à 18h30. Et après ce temps, il peut fermer les cahiers et il peut passer aux loisirs. Il peut utiliser un planning, il peut utiliser un agenda. Et surtout, pour les plus jeunes élèves, je pense que c'est cette méthode est plus efficace.
Le petit moment de loisir peut prendre combien de temps selon vous?
Personnellement, je pense que le petit moment de loisir peut, ça peut prendre 2 heures. Ça peut varier entre 1h30 et 2 heures. Pas se concentrer pendant tout le temps après les études au loisir.
Maintenant à l'école, comment un enfant peut éviter de ne pas mélanger les choses de la maison avec l'école?
À l'école, l'enfant ne doit que se concentrer sur les activités scolaires. Donc il doit se concentrer sur l'apprentissage, il doit se concentrer sur le devoir, les exercices, les interrogations que les enseignants sont en train d'administrer. Parce que s'il se met à mélanger les activités de la maison et celles de l'école, moi je pense qu'il y aura Emily Melo et ça ne va pas aboutir à un bon résultat.
Que peuvent faire alors les parents pour aider leurs enfants à mieux organiser leur temps?
Les parents peuvent jouer un rôle très important pour aider leurs enfants à mieux organiser leur temps et sans tout faire à leur place. Donc les parents ne doivent pas faire tout à la place des enfants.
Là, vous parlez des devoirs.
Les devoirs, oui, c'est beaucoup plus
souvent à domicile.
Nous avons constaté avec l'expérience qu'il y a des parents qui travaillent à la place des enfants. L'enfant doit travailler seul. Là où il accuse des difficultés, c'est à cet endroit que le parent peut venir, intervenir. Le parent peut aider l'enfant à établir, par exemple, un planning régulier, un emploi du temps que l'enfant doit créer en collaboration avec son parent. Et cela doit être parallèle avec les heures d'école. Les parents doivent instaurer une routine stable.
Là, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire encourager les horaires fixes pour le devoir chaque jour. Si tous les jours vous faites le devoir avec l'enfant de 16h à 17h, il faut l'habituer à 7h tous les jours. Les parents doivent également superviser sans faire à sa place. Superviser le devoir de l'enfant sans pour autant travailler à sa place. Donc il faut être disponible pour expliquer une consigne, aider à relire ou à vérifier une organisation.
Alors pour finir, monsieur le directeur, selon vous, quelle est la chose la plus importante à retenir pour bien organiser son temps quand on est encore élève, quand on est encore sur le banc de l'école?
Monsieur le journaliste, selon moi, la chose la plus importante à retenir pour bien organiser son temps quand on est élève, c'est avoir une routine claire et régulière, avec des moments fixes pour étudier, se reposer et se divertir. Pourquoi tout cela? Parce que une routine stable permet de réduire le stress qui sont liés aux devoirs de manière minute.
Il faut que l'enfant parvienne justement à discerner ou bien le temps de faire les devoirs, le temps de faire les loisirs, le temps de se divertir.
Exactement, monsieur le journaliste. Donc cette routine permet à l'enfant de mieux de se concentrer. Parce qu'on avait dit que le cerveau sait quand il doit travailler. Et de trouver également un équilibre entre école, repas, repos, amis et loisirs. mais aussi de gagner du temps sans s'en rendre compte.
Monsieur Romain Mongonouti, je rappelle, vous êtes directeur du complexe scolaire Notre-Dame des Grâces ici à Bounia. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Et pour nous guider dans la quête de cet équilibre essentiel chez nos enfants, Bano Okapi a le plaisir d'accueillir le psychologue et coach en bien-être Nerasha Nerakaninda. Il partage ses conseils pour équilibrer jeu, études et repos chez les enfants. Il souligne l'importance de cet équilibre pour une bonne production intellectuelle et appelle les parents à accompagner leurs enfants. Nerasha Nerakaninda s'entretient avec Modombe Benjamin.
Monsieur Nerasha Nerakaninda, coach en bien-être. Comment les enfants peuvent-ils trouver un équilibre entre leur activité et les études?
Déjà, il faut noter que le jeu est une activité intrinsèquement motivante. Ça permet aux enfants de pouvoir s'engager dans des expériences imaginables et généralement spontanées. Donc, ça permet à l'enfant de se mettre dans des conditions de travail libre où il est lui-même acteur du jeu, lui-même acteur de l'idée, lui-même acteur de la créativité même. Donc, ce qu'il pense, c'est ce qu'il met en action. Et ça lui permet d'exprimer ses ressentis intérieurs, ses vécus sentimentaux et émotionnels. Et bien entendu, ça lui permet de pouvoir construire son développement cognitif, social, émotionnel et bien évidemment sa personnalité.
Et par rapport à ça, vous pensez qu'il doit être accompagné par les adultes, les parents pour ce faire?
L'accompagnement de l'enfant dans le cadre du jeu dépend de l'action ou du jeu que l'enfant doit mener et bien évidemment aussi de l'environnement dans lequel il est en train de passer son jeu. Et quand c'est dans une situation plus d'interaction avec beaucoup d'enfants, il est bien évidemment qu'il faut les surveiller pour pouvoir prévenir des dérapages, prévenir de conduites inacceptables ou asociales. Et c'est dans ces cas que l'accompagnement de l'enfant permettra, c'est que lorsque l'enfant va manifester des comportements anormaux, il faut pouvoir peut-être les recadrer, lui faire comprendre que cette conduite-là n'est pas bonne, elle est mauvaise et que voilà la conduite qu'il faut devoir tenir. Et bien évidemment, dans ces cas, l'accompagnement est évident. Et aussi, il faut amener à pouvoir déterminer et définir quels sont les jeux que les enfants devraient faire. Et parfois, les enfants, avec l'évolution de la mondialisation, vous constaterez que plus des enfants, ça donne généralement des jeux brutaux, des jeux agressifs, alors que l'enfant est appelé à faire des jeux constructifs et qui lui permettent à mettre plus en évidence son développement cognitif et même psychomoteur.
Puisque ici nous parlons des activités, donc on fait allusion aux jeux et les études. Alors, quelle démarcation faites-vous entre ces deux concepts?
Les études permettent à l'enfant de pouvoir acquérir des connaissances, ce qu'il n'a pas en termes de compétences, de connaissances, de savoirs. Les études lui permettent d'apprendre comment écrire, comment lire, comment calculer, les notions de la culture générale, les notions du langage, par exemple comment écrire, comment lire et tout ce qui va dans le sens de développer ses aptitudes linguistiques, ses aptitudes intellectuelles et qui va lui permettre en fait de pouvoir aussi mieux construire sa personnalité. Tandis que le jeu lui permet de pouvoir lui-même en tant qu'individu de pouvoir mettre en exergue ses aptitudes cognitives. Et là, l'enfant se met dans une situation d'expérience, dans une situation de mise en action. Et ça lui permet en plus de mieux fortifier ses aptitudes intellectuelles. Et quand par exemple, c'est les jeux de rôle, parce que les jeux de rôle sont les jeux les plus recommandés, d'autant plus que l'enfant sera dans une situation où il doit développer des compétences par rapport au rôle qu'il joue. Aisément, ça va lui permettre de développer plus des raisonnements, plus des réflexions, et ça va lui permettre à chercher à résoudre des problèmes et l'effet pour l'enfant à plusieurs reprises de chercher à résoudre un problème donné qu'il rencontre pendant qu'il est en train de faire un jeu de rôle, ça va lui permettre à mettre son cerveau en action et plus son cerveau plutôt se développe et plus il développe son aptitude des raisonnements, son aptitude de réflexion et bien entendu son aptitude cognitive. Et dans cette perspective-là, l'enfant sera plus en mesure de pouvoir chercher à développer des stratégies, à pouvoir développer des solutions, ce qui lui permet à développer plus son imagination. Et nous savons tous que pour répondre à un problème donné, résoudre un problème donné, l'imagination est très importante parce qu'elle nous permet de pouvoir chercher plus de solutions et parfois même des solutions le plus probables et le plus pertinentes. Et le développement de cette attitude s'est fait tout simplement par exemple par le jeu de rôle auquel l'enfant est soumis durant tout son âge scolaire. Il est aussi très important de pouvoir le mettre dans cette situation parce que ça favorise son développement émotionnel. En ce moment-là, l'enfant exprime ses ressentis intérieurs, ses ressentis individuel, il exprime ce qui généralement est dans son subconscient qui ne lui plaît pas par exemple, et quand l'enfant arrive à résoudre un problème donné, la résolution de ce problème donné va lui procurer de la joie et ça va renforcer son estime de soi, ça va renforcer sa connaissance de soi, son estime envers les autres, et potentiellement l'enfant va se faire valoir au sein de la société. Et lorsque on l'encourage pour avoir trouvé une solution donnée à un problème pendant son jeu de rôle, l'enfant va se sentir aimé au sein de son environnement et cela va contribuer à la construction de sa personnalité. Et dans un autre volet, c'est que ça favorise son développement social, d'autant plus que l'enfant, pendant son jeu de rôle et en interaction avec les autres enfants, il va apprendre comment construire des relations sociales, il va apprendre à comment aimer son semblable, peu importe ses origines distinctes, et il va apprendre à comment interagir, à faire face même à des situations frustrantes lorsqu'il est en interaction avec les autres personnes. Et toutes ces choses commencent dès l'enfance. Et lorsque, pendant l'enfance, cette construction émotionnelle, sociale et cognitive est bien faite, à l'âge adulte, vous allez comprendre que l'enfant aura plus de facilité, de lucidité dans les relations sociales, de lucidité d'intelligence émotionnelle et même de lucidité dans son intelligence cognitif en résolvant les problèmes de la société facilement, les problèmes dans son milieu professionnel et même en famille, et cet enfant aura de la facilité à pouvoir mieux interagir au sein de la société.
Cela étant, est-il important d'avoir des moments sans rien faire ou des détentes complètes dans l'emploi du temps d'un enfant?
Déjà, il faut noter que l'importance du jeu de l'enfant permet à l'enfant de réduire le stress et l'anxiété parce que la vie est un combat qui conditionne l'être humain à des défis de stress, des défis d'anxiété, des défis d'amélioration d'estime de soi et même des résiliences parce que les problèmes sont récurrents dans la vie de l'être humain et l'enfant doit apprendre à être résilient face à une succession de problèmes et comment développer l'aptitude de la persévérance et même de l'espérance face à des situations incertaines. Et pour cela, il faut qu'il y ait des temps de jeu, des temps des études et bien évidemment aussi des temps de repos. Il faut qu'il y ait équilibre entre ces temps et cet équilibre entre ces temps doit être organisé entre les parents et l'école. Pourquoi ? Parce qu'à l'école, il y a bien évidemment ce moment d'apprentissage scolaire qui renvoie à l'apprentissage des notions des connaissances scolaires. Vous voyez même quand on étudie, nous avons des temps de la récréation, c'est pour que l'enfant puisse se relaxer. Ça lui permet en fait de se divertir d'autant plus que le cerveau ne peut pas être en action pendant plus de 2 heures de temps sans pouvoir se relaxer. Et il y a aussi des activités parascolaires qui permettent non seulement à construire, fortifier la construction émotionnelle, cognitive et sociale, comme je l'ai dit tantôt. Bien évidemment, c'est à permettre à l'enfant de pouvoir se relaxer, à trouver un confort dans son être. Et à la maison, il est évident aussi que les parents doivent équilibrer les temps de l'enfant pour que l'enfant ait le temps de relire ses notes, par exemple, de faire les devoirs. L'enfant doit avoir le temps d'avoir des jeux ludiques, par exemple, qui lui permet en fait de développer tout ce que nous avons explicité tantôt. Et l'enfant doit aussi avoir un temps de repos parce que même pendant le jeu, il faut noter qu'il est cerveau et en action. Et les cerveaux en action ne peut pas l'être pendant des moments indéfinis. Et les cerveaux doivent avoir un moment de repos, un moment de relaxation qui lui permet au corps de retrouver l'équilibre entre ce qu'il doit faire et les conditionnements physiologiques auxquels le corps est tenu.
D'accord, cela étant, peut-on dire que c'est pas important pour un enfant de rester sans rien faire?
C'est important, d'autant plus que l'enfant doit se reposer, mais quand l'enfant reste sans rien faire, on suppose que c'est un temps de repos. C'est un temps peut-être de concentration, c'est un temps un peu, on peut dire, de méditation. Donc, il est aussi forcément difficile que l'enfant reste sans rien faire, sans penser, parce que dans la vie de l'être humain, il y a ce que nous appelons l'association des idées. Peu importe les temps, sauf si nous dormons. Mais si l'enfant n'est pas endormi, il a toujours des idées qui passent en tête et qui l'amène à certaines imaginations. Et en ce moment-là, il faut les conditionner dans un temps de repos parce que ça permet à l'enfant de vraiment se reposer. Et les temps de repos aussi doivent être équilibrés peut-être en ne rien faire ou en dormant également. Parce que surtout le sommeil permet de mieux reposer les cerveaux, de mieux reposer les corps. Et ces repos physiologiques et biologiques permet au corps de retrouver plus son équilibre. Et aussi, faut-il souligner que l'alimentation, par exemple, les climats, l'atmosphère au sein de la maison également sont des facteurs très significatifs dans le développement de l'enfant et aussi dans l'équilibre entre les temps de repos ou de ne rien faire, les temps de jeu ludique et bien évidemment les temps des études.
En parlant de ça, vous avez parlé de l'équilibre notamment entre les jeux, donc c'est-à-dire les temps de loisirs, les études et les repos. Alors, comment les loisirs peuvent-ils aider les enfants à être plus concentrés et efficaces dans leurs études?
Les loisirs favorisent en fait la réduction du stress et de l'anxiété. Ça favorise l'amélioration de l'estime de soi et bien évidemment de la résilience également. Et ce sont ces facteurs qui favorisent à ce que l'enfant puisse bien se concentrer parce que le manque de concentration est forcément dû aux facteurs stressants et anxieux qui fait en sorte que l'enfant n'est pas aisé dans des conditions d'apprentissage scolaire, dans les conditions, par exemple, des passations, d'interrogation des examens, ou des situations vécues au sein de la famille, au sein de la maison, par exemple, des situations sociaux familiaux qui influencent de manière négative l'enfant, peut désorienter l'attention de l'enfant. Et lorsque les loisirs favorisent la réduction du stress et de l'anxiété, ça va permettre à l'enfant de renforcer son estime de soi, de renforcer la résilience, la capacité à s'adapter à des situations contraignantes ou complexes. Et l'enfant, à ce moment-là, aura plus de chances, de probabilités de pouvoir se concentrer, par exemple, sur l'apprentissage scolaire pendant qu'il est en train d'étudier, ou bien encore pendant la passation des interrogations ou de ses examens. Et c'est de cette manière que les loisirs influencent de manière positive la concentration ou l'attention de l'enfant. Les loisirs, en fait, influencent de manière positive l'attention de l'enfant, d'autant plus que nous l'avons dit tantôt. Il permet de réduire les stress et l'anxiété, il permet également de renforcer l'estime de soi chez l'enfant, et également la résilience, parce que la résilience, c'est tout simplement c'est fait de s'adapter à des situations complexes ou des situations de problèmes. Et dans cette situation-là, l'enfant aura plus de capacités de pouvoir s'adapter, à pouvoir être attentionné ou concentré sur l'apprentissage scolaire pendant l'examen, pendant l'interrogation, d'autant plus que les facteurs qui les stressent, les facteurs anxieux, sont de plus en plus inhibés par les loisirs qu'il a eu à faire. Et de cette manière, l'enfant va plus se concentrer ou sera plus attentionné à ses situations d'apprentissage scolaire. Il faut noter que les facteurs sociaux ou familiaux peuvent influencer l'enfant, et c'est en ce moment-là que l'enfant peut avoir des problèmes d'attention, des concentrations. Et lorsqu'il a des temps équilibrés entre l'apprentissage, les repos et les loisirs, ces temps de loisirs lui permettraient de réduire le stress et l'anxiété, et ce qui va même favoriser son estime de soi, parce qu'il va se rendre conscient et capable de pouvoir réaliser son don qu'il est censé le faire, et comme il est censé avoir une bonne performance scolaire, l'enfant sera en mesure même de manière consciencieuse à se rendre compte qu'il est capable de le faire en dépit des facteurs familiaux sociaux qui sont en train de l'affecter, d'autant plus que le stress et l'anxiété est réduit de manière significative à travers les loisirs qu'il a généralement à faire. Et de cette manière, l'enfant sera plus attentionné et il aura la capacité, bien évidemment, de se concentrer et d'avoir une performance ou un rendement scolaire probant.
Alors, comment les parents peuvent-ils soutenir les passions et les activités des loisirs de leurs enfants tout en veillant à leur réussite scolaire?
Ici, comme l'avons dit, l'équilibre entre les temps d'apprentissage, les temps de lecture, les temps de faire les devoirs, les temps de loisirs et les temps de repos sont déterminés également par les parents parce que ce sont eux qui sont censés surveiller les enfants et prévenir à ce que les enfants puissent équilibrer leur temps à la maison. Et la collaboration entre les parents et l'école permet à ce que les parents s'assurent qu'à l'école également, l'enfant a ses temps d'apprentissage et qu'il n'est pas aussi influencé négativement par certains amis. Et la causerie éducative entre les parents et les enfants sont très significatives parce que les parents arrivent à causer avec les enfants, à s'exprimer avec les enfants, à faire comprendre aux enfants l'utilité de l'apprentissage scolaire, l'importance du loisir et du repos, et ce qui fait en sorte que les dialogues entre les parents et l'enfant vont favoriser en fait la confiance déjà de la relation parent-enfant, la confiance de l'enfant pour les enfants, et c'est que, et pour les parents plutôt, et ce qui permettrait aux enfants de s'exprimer de manière lucide et aussi de pouvoir manifester peut-être leurs indignations ou de faire valoir aussi leurs problèmes auprès des parents et que les parents pourront résoudre facilement et les parents pourront aussi s'assurer que les enfants passent favorablement leur temps d'apprentissage, que ce soit des loisirs ou des repos. La causerie éducative, les temps, la relation parent-enfant est très significative dans ce contexte et il est important que les parents puissent favoriser des conditions optimales et atmosphériques qui permettent à l'enfant de pouvoir mieux apprendre à l'école, que ce soit à la maison, et de bien passer les temps des loisirs et des repos.
Monsieur Nia Chanera Kaninda, je rappelle que vous êtes coach en bien-être. Je vous remercie.
Le plaisir est pour moi également.
Notre invité est Jean-Claude Dissachi, psychologue et conseiller d'orientation. Pour lui, il y a beaucoup d'avantages au temps consacré aux études et aux loisirs pour nos enfants scolarisés. Cela procure un bien-être psychologique et physique. Avoir confiance en eux-mêmes, savoir gérer le stress et ainsi de suite. Monsieur Jean-Claude Dissachi répond aux questions de Stanislas Diomi.
Bonjour Monsieur Jean-Claude Dissachi.
Bonjour Monsieur Stanislas Diomi et bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Vous êtes psychologue et conseiller d'orientation et le magazine Bana Okapi aborde le sujet sur la gestion du temps, équilibre entre les études et le loisir. En tant que psychologue et spécialiste de l'éducation, pourquoi est-il important pour les enfants d'équilibrer études et le loisir?
Trouver un équilibre ou un juste milieu entre le temps consacré aux études et le temps consacré aux loisirs présente beaucoup d'avantages pour nos enfants qui sont scolarisés. Premièrement, vous devez savoir que cela procure un bien-être à ces enfants, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. Cet équilibre permet également aux enfants d'avoir confiance en eux-mêmes, d'apprendre également à gérer les stress, à développer certains talents cachés qu'ils pourraient avoir, et ça peut également permettre aux enfants de réussir. Lorsque l'enfant s'auto-découvre à travers certaines activités parascolaires, cela lui permet de braver certaines limites dans la vie. Cela lui permet d'atteindre certains modes de réussite qui ne sont pas forcément scolaires. Et cela peut servir encore de source de motivation pour l'activité scolaire ou les études que l'enfant est en train de réaliser ou de suivre. Donc l'équilibrage entre études et loisirs est très très important pour nos enfants. Au finish, vous devez savoir qu'un enfant épanoui est un enfant qui réussit. Parce que à travers des activités parascolaires ou des activités de loisirs, cela peut combler les sentiments d'autoréalisation auprès de l'enfant. Voilà quelques bien fondés de cet équilibrage entre études et loisirs.
Comment les loisirs contribuent-ils au développement des enfants alors?
En effet, monsieur le journaliste, les loisirs peut contribuer de plusieurs manières au développement intégral de l'enfant. Je dis bien développement intégral parce qu'il faut prendre en compte la représentation que se fait le psychologue de l'être humain. Pour les psychologues, en effet, l'être humain est à la fois affectif, il est conatif et il est aussi cognitif. Si les études peuvent développer l'aspect cognitif de l'enfant, il est à ne pas négliger et à savoir qu'il y a également des aspects qui peuvent être développés chez l'enfant, qui sont des aspects purement psychomoteurs ou conatifs et qui sont des aspects purement affectifs. Par exemple, l'enfant peut s'adonner à certains loisirs tels que les sports, la musique, et cela peut servir à ce que l'enfant puisse découvrir d'autres talents cachés en lui. Et cela permet à l'enfant de savoir qu'il peut réussir, non seulement à travers ce qu'il réalise comme études, mais aussi à travers les talents qu'ils regorgent. Évidemment, certains enfants peuvent également s'autodécouvrir à travers d'autres activités, telles que la lecture. Cela peut faire naître le goût de l'écriture à l'enfant. Et là-bas, on peut avoir un romancier caché au-dedans de cet enfant-là en puissance qui est en train de naître. Donc, les loisirs contribuent effectivement au développement intégral des enfants. Et cela de plusieurs façons, comme je venais de le dire. L'enfant qui s'adonne aux loisirs s'enrichit. Il s'enrichit même à travers ce qu'on appelle le jeu. Il y a des jeux, par exemple, de construction. Il y a des jeux symboliques. Il y a des jeux de motricité. Des jeux sensoriels. Les enfants peuvent se donner à des jeux où ils font des recettes de cuisine, par exemple. Tout cela permet aux enfants de s'enrichir avec d'autres connaissances qui ne sont pas forcément des connaissances qu'ils peuvent acquérir à l'école ou dans un cadre purement consacré à l'instruction. Donc, le loisir est très nécessaire pour le développement intégral de nos enfants, car les enfants respectent cette trilogie en tant qu'être humain, où ils se présentent comme étant à la fois affectifs, cognitifs et psychomoteurs ou conatifs.
Est-ce que faire une pause pour jouer peut aider à mieux travailler après, ou comment?
Tout à fait. Faire une pause pour jouer peut aider à mieux travailler après, effectivement. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous constatez que dans les temps consacrés aux études, dans les cadres purement institutionnels et scolaires, vous allez constater qu'il y a un moment qu'on consacre aux enfants pour que les enfants jouent. Et ce temps s'appelle la récréation. Quel est l'avantage de ce temps? Il permet aux enfants, par exemple, d'échanger des idées, hein, de s'évader, de pouvoir se ressourcer, évidemment pour avoir une attention soutenue. La monotonie conduit à une certaine baisse d'attention. Hein. C'est ce qu'il faut éviter lorsqu'on a des enfants en face de lui. Voilà pourquoi il y a un temps, par exemple, à l'école qui est consacré à la récréation pour permettre aux enfants d'échanger des idées et de se ressourcer à la fois physiquement et pour dire psychologiquement, hein, donc d'avoir un temps de détente, de détendre les nerfs, de détendre l'esprit, de détendre le corps pour finalement revenir avec beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de force et affronter les nouveaux défis des études qui vont se présenter à eux. Donc, avoir une pause consacrée aux enfants pour détendre leur esprit est très nécessaire. Parce qu'après, les enfants trouvent de l'énergie, les enfants se ressourcent et les enfants sont mieux adhérés pour affronter le reste des temps qui leur est consacré pour les études.
Dans ce cas, comment choisir, par quoi commencer quand on a plein de choses à faire?
Quand on a plein de choses à faire, la première des choses à faire, c'est savoir hiérarchiser ses activités en termes d'importance. Hein? Hiérarchiser en termes d'importance les activités que vous avez à faire, chronogrammer ces activités-là, c'est-à-dire les programmer dans le temps. Par exemple, il y a des enfants qui vont à l'école de telle heure à telle heure, ça c'est connu. Mais après, quand ils rentrent de l'école, ils sont à la maison. Quelle activité se livrent ces enfants-là? Ils doivent avoir le temps de faire la sieste, qui leur permet de se ressourcer sur le plan physique et mental. Et après cela, ils peuvent s'adonner à d'autres activités telles que le jeu, hein, qui leur permet de s'évader, d'aller au-delà de ce qui est purement scolaire. Et au finish, revenir par exemple dans des activités telles que les devoirs qu'ils ont à faire à la maison et tout ça. Donc les parents doivent accompagner les enfants dans la hiérarchisation des priorités qu'ils ont par rapport aux activités qu'ils doivent réaliser tout au long de la journée. Si les enfants peuvent arriver à hiérarchiser en termes d'importance des activités qu'ils ont à réaliser tout au long de la journée, cela ne va pas poser des problèmes auprès de ces enfants-là. Donc, cela n'est pas seulement de la responsabilité des enfants, mais aussi un accompagnement des parents s'avère nécessaire pour aider chaque enfant à savoir hiérarchiser en termes d'importance des activités journalières qu'il a à faire et savoir accompagner les enfants à chacune de ces étapes et à la réalisation de chacune de ces activités-là.
Et quel risque court un enfant qui n'a jamais le temps de s'amuser?
Il faut savoir que l'activité principale de l'enfant reste les jeux. Et lorsqu'on prive l'enfant de cette activité-là, cela crée de la frustration. Et cela peut également entraîner l'enfant à une certaine dépression, à un isolement. Vous allez voir l'enfant s'isoler, l'enfant se recroqueviller en lui-même, tout simplement parce que il n'a pas le temps de s'épanouir. Donc on empêche à cet enfant-là de s'épanouir. Sur tous les plans alors, on empêche à cet enfant-là de s'épanouir. Donc un enfant à qui on empêche de s'épanouir sur le plan à la fois physique, intellectuel et autre, vous allez constater que ça ne sera pas un enfant qui va donner le meilleur de lui-même. Voilà les risques que cela représente.
Quel conseil donneriez-vous aux enfants qui ont du mal à gérer leur temps?
Aux amis qui ont du mal à gérer leur temps, je leur demanderai d'abord de prendre conscience de cette réalité. Car toute prise de conscience entraîne évidemment une recherche de solutions à ces problèmes qui se posent à soi. Donc, des amis qui ont du mal à gérer le temps, cela arrive effectivement, mais nous leur demandons d'abord de prendre conscience de cette réalité. Et les autres conseils que je peux leur donner, c'est d'abord établir une liste de priorités en termes d'activités qui sont censées réaliser tout au long de la journée, d'établir une liste. Et quand on hiérarchise les activités à réaliser tout au long de la journée, en termes de priorités et en termes d'importance, et essayer de respecter ces chronogrammes auxquels on s'est soi-même soumis, je crois que ça va aider ces enfants-là à s'améliorer et à mieux savoir gérer leur temps. Lorsque cela s'installe dans les temps, cela va devenir comme une habitude et finalement tout va aller de soi. Et ces enfants n'auront plus de problèmes par rapport à la gestion des temps. Hiérarchiser les activités en termes d'importance et en termes de priorité, c'est une chose très très importante pour nos enfants. Et les parents devraient accompagner les enfants dans la réalisation de cette hiérarchisation, de cette priorisation et de la réalisation de ces activités priorisées pour que cela s'installe dans le temps et que cela reste finalement comme une habitude auprès de ces enfants-là.
Monsieur Jean-Claude Dissachi, je rappelle que vous êtes psychologue et conseiller d'orientation. Nous vous disons merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
S'achève ce numéro de Bana Okapi consacré à l'art de la gestion du temps chez nos jeunes. Les témoignages des enfants, les perspectives des parents et les conseils de nos experts convergent vers une même conclusion. L'équilibre entre les études, les loisirs et le repos n'est pas un luxe, mais une nécessité fondamentale pour le développement harmonieux et la réussite de nos enfants. Et vous, chers enfants, jeunes auditeurs, comment gérez-vous votre temps? Rejoignez-nous sur notre page Facebook Bana Okapi pour partager vos impressions et poser vos questions. Nous serons ravis de vous retrouver et d'échanger avec vous. Souhaitez-vous réécouter cette émission, revivre ce moment fort ou encore découvrir nos autres productions? Rendez-vous de maintenant sur les sites de Radio Okapi, www.radiookapi.net. Nous disons merci à toute l'équipe qui a contribué à la réalisation de cette émission. Sulamit Kipuni, Jeff Opela, Ezekiel Mouzali, Aplota Yambenga, Guylaine Kassassia, Pascal Chinamula, Grâce Envoezolo, André Kitenge, Stanislas Diomi, Kelvin Bayeni, Greta Lulendo et Stanislas Diomi. Merci également à Christian Mapendano et à Chris pour la coordination de ce programme, à Jean-Marc Matoki Moufelele Dijano pour la supervision, à Paul Badianama pour la prise de son et à Deps Vita pour la mise en onde. Je suis Sarah Soumbela, j'étais à la présentation. À tous nos auditeurs, merci de nous avoir accompagnés et à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Bana Okapi.